Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu dans le précédent sermon que notre Seigneur dénonce dans 3 des 7 lettres aux églises d'Asie les vices contre la chasteté. Mais ce qu'il reproche aux évêques, particulièrement à l'évêque de Thyatire, c'est sa faiblesse dans l'exercice de la correction fraternelle. Notre Seigneur lui dit « Tu permets que Jézabel, etc. pervertisse le peuple. » C'est-à-dire, non pas « tu autorises », parce que là, notre Seigneur se fâcherait tout rouge, mais « tu laisses faire ». Et cela suffit pour que notre Seigneur se fâche réellement. La première leçon que l'on peut tirer de ce reproche de notre Seigneur à un évêque, c'est le devoir de l'évêque, non seulement d'enseigner, mais de reprendre, de corriger les vices, de les corriger avec efficacité. C'est le grand drame de l'Église aujourd'hui d'avoir des évêques qui n'exercent pas la correction fraternelle, qui ne corrigent pas leurs ouailles. Il ne suffit pas qu'un évêque dise la vérité, encore faut-il qu'il combatte. Monseigneur Lefebvre a dit la vérité, il l'a dit à Rome, il l'a dit en public, il l'a dit dans les sermons, il l'a dit dans les conférences, il l'a dit partout, mais en plus il a combattu. Il a tellement bien combattu que même ceux qui se sont ralliés à la Rome moderne profitent encore aujourd'hui de son combat et ne seraient rien si Mgr Lefebvre n'avait pas combattu. Si Mgr Lefebvre n'avait fait qu'enseigner, ces gens-là ne seraient rien du tout, et nous-mêmes d'ailleurs, nous ne serions pas grand-chose. Et que Mgr Lefebvre nous a-t-il enseigné à être des missionnaires? Nous n'avons probablement pas été d'assez bons disciples et pas assez fidèles à ce qu'il nous demandait. Et je vais vous faire le sermon d'aujourd'hui sur le devoir de correction fraternelle, non seulement chez les évêques, chez les prêtres, mais chez tous les laïcs, en commençant par les pères de famille, mais tous les laïcs, sans distinction. Je n'oublie pas que mon devoir n'est pas de vous faire un commentaire sur l'Apocalypse, mais de vous donner des sermons, c'est-à-dire de vous former à être de bons chrétiens. Et il suffit que cette lettre à l'église de Thyatire nous donne la racine de notre devoir pour que je sois obligé de développer afin que vous puissiez en profiter pleinement. Je suis donc allé chercher chez Saint Jean Chrysostome, le patron des prédicateurs, recommandé à nous par Mgr Lefebvre, ce grand évêque qui est l'équivalent de Mgr Lefebvre à son époque, un des très grands docteurs de l'Église, recommandé par l'Église au même niveau que saint Augustin. Voici ce qu'il affirme. Le souverain juge nous demandera raison de notre salut aussi bien que de celui du prochain. Le souverain juge nous demandera raison de notre salut aussi bien que de celui du prochain. Et il ajoute, saint Paul nous recommande partout de ne pas rechercher notre bien, mais celui du prochain. Vous me direz, mais ce n'est pas possible cela, je dois d'abord me sauver moi et puis ensuite me préoccuper du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et non pas toi-même comme le prochain. Bien sûr, mais notre Seigneur dit aussi que le second commandement, d'aimer son prochain, est semblable au premier, aimer Dieu. Cela signifie qu'il n'est possible de nous sauver nous-mêmes que si nous travaillons à sauver le prochain. Et lorsque saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui des autres, c'est évidemment à comprendre comme cela, que personne ne sépare son propre intérêt, propre c'est-à-dire comme s'il en faisait quelque chose de séparé du reste, vous voyez. Donc personne ne sépare son intérêt, en faisant un intérêt propre, que personne ne sépare son intérêt de celui des autres, et que par conséquent, s'il veut chercher son intérêt, il cherche l'intérêt des autres. Ce sont les paroles infaillibles de l'Écriture sainte. Ce ne sont pas des commentaires. Saint Paul ne donne pas un commentaire. Saint Jean Chrysostome, oui, donne un commentaire. Mais Saint Paul ne donne pas un commentaire. Il donne un enseignement qui vient directement du Saint-Esprit, qui est dicté par le Saint-Esprit. Et Saint Jean Chrysostome commente, lui, Saint Paul réprimande fortement les Corinthiens de ce qu'ils n'ont pas pris soin du fornicateur de Corinthe, qu'ils ont négligé sa blessure encore saignante. Et il continue, Saint Jean Chrysostome, en citant l'Épître aux Galates, « Mes frères, si quelqu'un est tombé par surprise en quelque péché, vous autres, qui êtes animés de l'Esprit de Dieu, relevez-le. Et aux Thessaloniciens, exhortez-vous les uns les autres, comme vous faites. Et encore, redressez ceux qui sont dans le désordre, consolez les pusillanimes, c'est-à-dire les petits, les faibles, et soutenez les faibles. » Et Saint Jean Chrysostome va répondre à une objection. Il nous entend dire, mais le salut du prochain ne nous regarde pas, nous avons notre devoir d'État, comme on dit aujourd'hui. Et c'est facile, le devoir d'État. C'est très souvent un prétexte, justement, à ne pas faire les devoirs que Dieu attend de nous et à chercher notre intérêt propre au lieu de chercher l'intérêt du prochain. Donc, Saint Jean Chrysostome entend cette objection. Et voici ce qu'il répond. Il s'agit là d'une pensée sauvage et inhumaine. Et pour que personne n'ose dire cela, Saint Paul dresse autour de nous comme une barrière inviolable le précepte de mépriser en plusieurs circonstances nos propres intérêts pour soigner ceux du prochain. Et il prescrit, Saint Paul toujours, de garder partout cette règle sévère de conduite. Aux Romains, nous devons donc, nous qui sommes plus forts, supporter les faiblesses des infirmes. Supporter, cela ne veut pas dire les accepter, ça veut dire soutenir les infirmes dans leur faiblesse. Ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de vous plaise à son prochain en ce qui est bien, pour l'édification. Car le Christ, et c'est là la raison fondamentale du salut envers le prochain, car le Christ a offert sa vie pour le salut de tous, y compris de ses ennemis. Car tout pécheur, avant d'être converti, était ennemi de Dieu, est ennemi de Dieu. Saint Paul va plus loin, il dit que si une chose bonne est un objet de scandale pour nos frères, nous devons nous en abstenir. C'est la question de manger les viandes qui étaient immolées aux idoles, qui avaient été immolées aux idoles. Est-ce que c'est permis de les manger? Ou après tout, c'est comme de manger de la viande halal. Ce n'est pas parce que un idolâtre a fait des fausses prières sur cette viande qu'on n'a pas le droit de la manger. Mais si cela choque quelqu'un, alors j'ai le devoir de m'abstenir de manger de telle viande pour ne pas causer scandale au prochain. Car, dit Saint Paul, en péchant de la sorte contre les frères, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ. Saint Jean Chrysostome commente la parabole des talents. Vous savez que celui qui a reçu un talent l'enfouit en terre, et lorsque son maître le lui demande, il rapporte soigneusement dans un mouchoir ce talent, alors que les autres ont fait fructifier leur propre talent. Et celui-ci, qui le rapporte soigneusement, est puni, et son talent est remis à celui qui en avait déjà gagné cinq. Saint Grégoire le Grand, pape, commente ainsi. Celui qui a reçu un talent, un seul, a reçu beaucoup plus que celui qui en a reçu cinq, parce que un seul talent lui suffisait. C'est donc un talent très riche. Et il dit, c'est la profondeur de pénétration du mystère divin, on a là quelqu'un qui a reçu la connaissance du mystère divin. Or, il ne l'a pas fait fructifier, c'est-à-dire qu'il n'a pas rayonné sur les autres, il n'en a pas fait profiter les autres. Son talent est resté stérile, et c'est pourquoi D'une part, il est puni. Deuxièmement, son talent sera donné à celui qui en avait cinq, qui a travaillé avec ses cinq sens, avec cinq talents qui étaient petits, puisqu'il en a fallu cinq pour arriver à faire quelque chose. Eh bien, celui qui s'est donné du mal pour le prochain, dans des choses très concrètes, avec les cinq sens, reçoit la profondeur du mystère divin. Et saint Jean Chrysostome dit la même chose. Celui qui rapporte son unique talent sans l'avoir fait fructifier n'est pas puni pour avoir négligé son propre salut, puisqu'il rapporte le talent, mais pour n'avoir pas travaillé à celui du prochain. Et il affirme, et ça c'est capital, notre vie à nous aurait beau être irréprochable, cela ne suffirait pas à nous exempter de l'enfer où nous pouvons être jetés pour notre négligence vis-à-vis du prochain. Et là, mes bien chers frères, il est évident que nous avons un gros examen de conscience à faire. Nous, les traditionnalistes, qui avons reçu, on peut dire, un talent précieux, le talent de la foi, un talent de lumière profonde, avons-nous travaillé au salut du prochain? Avons-nous, comme nous le devions, travaillé au salut du prochain? Et je passe encore quelques citations de saint Paul pour arriver à celle-ci, dans sa première épître à Timothée. Si quelqu'un ne prend pas soin de ceux qui le touchent, principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Principalement ceux de sa maison, ça ne veut pas dire exclusivement ceux de sa maison, ça veut dire en commençant par ceux de sa maison. Parce que saint Jean Chrysostome s'adresse à des pères de famille et il dit « Votre devoir de sauver le prochain commence par le salut de vos enfants. » Et il pourrait ajouter « Le salut de votre épouse. » Mais il s'agit de principalement ceux de la maison. Et justement, prendre soin de ceux de sa maison, c'est en faire de véritables chrétiens qui aiment Dieu et qui aiment le prochain. Et aux enfants, les pères de famille doivent enseigner, d'abord, s'ils doivent se marier, à être eux aussi de bons pères de famille, mais pas seulement à être de bons chrétiens, c'est-à-dire à être persuadés qu'ils n'assureront leur propre salut qu'en assurant le salut du prochain. Et c'est cela la grande leçon que les pères de famille doivent donner à leurs fils. Ceux qui se marient ne doivent avoir des enfants que pour soutenir ceux qui se sont consacrés comme prêtres à l'apostolat ou comme religieux au service de Dieu. Je sais bien que ce que je vous dis n'est pas le discours habituel. Je sais bien que vous entendez rarement cela. Mais je ne fais que répéter saint Jean Chrysostome, qui parle avec une grande vigueur, et lui-même ne fait que répéter saint Paul, qui parle avec autant de vigueur. Et c'est justement parce que cette vigueur a disparu de nos vies chrétiennes que l'Église est dans l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Je ne veux évidemment pas vous rendre responsable et nous rendre responsables de l'état actuel de l'Église, mais je nous rends responsables de l'état futur de l'Église. Ce qui s'est passé avant nous ne dépend pas de nous, mais ce qui se passera après nous dépend de nous. Vous me direz que j'exagère et que nous sommes chargés du salut de quelques-uns et non pas de toute l'Église. Ce n'est pas l'avis de notre Seigneur lorsqu'il parle à l'évêque de Thyatire. Après avoir déclaré qu'il va punir Jézabel et tous ceux qui l'ont suivi, il s'adresse aux bons et il dit « Celui qui aura vaincu, vaincu c'est-à-dire qui se sera battu, non pas celui qui sera resté fidèle, ou il ne dit pas seulement celui qui aura vaincu les tentations du démon, c'est-à-dire qui aura personnellement assuré son salut. Non, il y a un combat pour la foi, contre les erreurs, contre les vices, bien entendu. Il y a un devoir de correction fraternelle, et celui qui l'aura exercé sera comme un vainqueur. Et je lui donnerai, dit Jésus-Christ, je lui donnerai puissance sur les nations. » Il ne dit pas « à toi, évêque de Thyatire, je te donnerai puissance sur les nations », mais à celui qui aura vaincu, à tous ceux qui auront vaincu, je lui donnerai puissance sur les nations. et elles seront brisées comme un vase du potier, non pas brisées dans la vengeance, mais brisées dans la contrition du cœur, le regret des péchés qui ramène à Dieu. Les cœurs secs comme de l'argile seront brisés pour laisser place à un cœur de chair qui aime Dieu. Et parce que les bons chrétiens auront exercé la correction fraternelle, tout d'abord ils reçoivent ce pouvoir de rayonner et d'avoir de l'influence sur le prochain et même sur les nations, comme Mgr Lefebvre, mais comme saint François d'Assise, qui était un simple petit chrétien. Et ensuite, alors, la récompense personnelle, pour avoir travaillé au salut du prochain, ils ont sauvé le prochain et ils se sauvent eux-mêmes, et alors ils reçoivent l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est à la fois Jésus-Christ et la Très Sainte Vierge. La prochaine fois, je vous donnerai des conseils pratiques, parce que je me rends bien compte que vous avez besoin d'être mis le pied à l'étrier, mais je ne pouvais pas vous mettre le pied à l'étrier si d'abord je ne vous avais pas profondément enraciné dans ce désir du salut du prochain par amour de Dieu. Portez les fardeaux les uns des autres, c'est ainsi que vous accomplirez la loi du Christ. Alors si mon discours vous étonne, écoutez ce que dit notre Seigneur, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises, l'Esprit Saint. On ne peut comprendre ce discours de saint Jean Chrysostome et de saint Paul et de notre Seigneur Jésus-Christ qu'avec l'Esprit Saint, et c'est à lui qu'il faut demander, par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge, ce zèle de charité qui nous dévore. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.